Chers auditeurs d'OxyWeb, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Estoria. Estoria, l'émission qui vous parle de l'histoire de notre région. Cette semaine, nous revenons au pays de Cocagne pour suivre l'aventure du pastel. Vous vous en souvenez, la dernière fois, nous avons quitté les marchands de pastel en pleine euphorie. En ce début du XVe siècle, le commerce du pastel va devenir de plus en plus florissant et la richesse va s'étaler au grand jour. Je vais d'ailleurs vous présenter quelques-uns de ces riches commerçants qui vont donner à la ville rose, à travers leurs magnifiques hôtels, l'air florentin qu'on lui connaît encore aujourd'hui. Sur les 80 hôtels qui furent construits à l'époque ou à peu près, vous pouvez encore en admirer une bonne vingtaine. Suivez-moi. Nous allons à la rencontre de ces vaillants négociants et je citerai en premier François Robien. Vers 1450, il se met à acheter le pastel en Lauragais et le vend auprès de ses confrères toulousains. Les marchands, à cette époque, attendent que le client vienne à Toulouse pour acheter leurs marchandises. Ils ne vont pas eux-mêmes le vendre en extérieur. Mais un certain Pierre Fabre a l'idée d'aller vendre sa production en Castille. Et pour cela, en 1458 et 1459, il descend en barge la Garonne et, pour éviter Bordeaux, il embarque à Arcachon. Cela en fait s'avère peu pratique et ne sera pas renouvelé. Vers 1475, une nouvelle impulsion est donnée par les marchands. Jean Boisson, originaire de l'Aveyron, domine le marché toulousain et il innove dans plusieurs domaines. D'abord, il va acheter son pastel en Lauragais et le stocke à Pinsaguel, Miremont ou Muret. Il achète aussi du pastel en albigeois qu'il va aller troquer contre de la laine venue d'Aragon. Il revend une bonne partie de son pastel sur Toulouse ensuite à d'autres marchands. Mais il ne s'arrête pas là. Il va, ce que ne faisaient pas les autres marchands, aller à la recherche du client. Et par exemple, il va expédier du pastel en Castille et il va aller le vendre sur place. À Albi, à la même époque, Jean Reynès et son fils Roger s'enrichissent grâce au pastel et se font construire un magnifique hôtel. Ils font, eux, transiter leur pastel par le Limousin et le Berry et de là l'Orléanais, le Lyonnais, Paris et la Flandre. Dès 1490, les Albigeois sont présents à Calais, Boulogne et Anvers. Mais ce sont malgré tout des cas isolés, car la plupart des marchands restent toujours passifs sur Toulouse en attendant le client. Mais la situation va changer vers 1510 avec l'arrivée des marchands bordelais et à ce moment-là, on verra se mettre en place un commerce en pleine mutation. Par exemple, Pierre II Lancefoc et son frère Simon, qui sont associés de 1504 à 1513, vont acheter eux leur pastel à Sainte-Gabelle et dans la vallée de l'Ariège. Et ils vont le vendre à Bayonne. Mais ils se séparent. Pierre continue le commerce traditionnel et Simon, plein d'idées, innove. D'abord, il décide d'organiser ce que nous appellerions aujourd'hui la traçabilité de son pastel. Pour cela, il achète un très grand nombre de terres pour cultiver et produire lui-même la teinture. S'il n'achète pas un terrain, il prête de l'argent aux producteurs, et il y en a beaucoup, et ensuite il leur réserve leur récolte au meilleur prix. Il vend sa teinture sur Bordeaux, et de là à l'étranger. Et comme il se méfie des correspondants, établis dans des lointains comptoirs, il y installe des membres de sa famille. Son organisation date de 1519 et les banquiers lyonnais le choisissent en 1525 comme leur correspondant à Toulouse. À la même époque, Jean de Boisson, dont j'ai parlé tout à l'heure, établit un système semblable, à la différence cependant qu'en véritable exportateur, il reste lui propriétaire du pastel jusqu'à l'arrivée dans les ports étrangers. Nous en venons à un autre marchand, Jean de Bernuy. Qui est ce Jean de Bernuy qui va dominer le marché toulousain ? En 1488, Alonso de Bernuy, marchand de Burgos, et Diego de Bernuy, en 1490, lui, marchand d'Avila, viennent acheter leur pastel à Toulouse. Et ils s'y trouvent bien, et Diego, vers 1495, s'y installe définitivement. Pour en revenir à Jean, il arrive à Toulouse aux environs de 1499 et il pratiquera le négoce familial entre l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie et Anvers. Il doit l'accroissement de sa fortune à des achats anticipés de pastel en Lauragais. Comme d'autres riches pasteliers de Toulouse, il investit sa fortune dans le foncier. Il achète la seigneurie de Villeneuve-la-Comtale, une partie de la baronnie de Saint-Sulpice-la-Pointe, les seigneuries de Léran et de Lasbordes. Mais à Toulouse, il possède également plusieurs demeures, rue La Canale, qu'il fait réunir entre 1503 et 1533 par le maître maçon Louis Privat, qui les transformera en hôtel particulier qu'on appelle, que vous connaissez, l'hôtel de Bernuy. C'est un des hôtels les plus somptueux de Toulouse. Aujourd'hui, il est enserré dans le lycée Pierre de Fermat et il ne reste plus que la cour et la tour que Bernuy voulait, entendez bien, plus haute que celle de monsieur le procureur. Il devient capitoul et il est de loin l'homme le plus riche de Toulouse. Jean de Bernuy s'est même porté caution pour la rançon de François Ier, qui fut prisonnier à Pavie. Il recevra le roi de façon grandiose dans son hôtel le 4 août 1533, lors de la visite de François Ier, visite où Paul de Viguier, dite la belle Paul, connue pour sa beauté, lui aurait remis les clés de la ville. À partir de 1530, la puissance des pasteliers toulousains va grandissante. Pierre II et Pierre III Lancefoc, le Basque Jean Chevéry et Raymond Séravert créent ce que l'on a appelé des compagnies de ramassage. Ils vendent leurs pastels dans toute l'Europe. Mais, on ne sait pas pourquoi, en 1545, cette société, pourtant importante, est dissoute. D'autres marchands se spécialisent. Par exemple, Jean Boisson, lui, va s'intéresser surtout au marché du Nord. Il importe du blé, du drap, du cuir, du plomb, dont il assure lui-même la revente. Mais il faudrait parler maintenant du plus célèbre des pasteliers toulousains. Je veux parler du dénommé Pierre Assezat. Qui est ce Pierre Assezat ou Pierre d'Assezat ? Eh bien, c'est le fils d'un petit marchand d'espalion qui est venu s'établir à Toulouse avec ses deux frères aînés. Ils ont très vite compris que si on veut devenir riche à Toulouse, il faut vendre du pastel. Eh bien, du pastel, ils vont en vendre. Coup du sort pour en cependant, en 1546, ces deux aînés meurent coup sur coup. Et voilà qu'à 30 ans, Pierre d'Assezat se retrouve seul patron d'une compagnie déjà importante. En 1551, il est fait capitoul, c'est-à-dire anobli, comme l'avait été Pierre de Bernuy. Il est au premier rang des marchands toulousains et, à partir de 1555, il expédie annuellement vers Bordeaux plus de 1000 tonnes de pastel par an. Il laisse tomber le marché espagnol, à l'exception de Pampelune, mais il a surtout des correspondants en Flandre, en Angleterre et en Écosse. Au point qu'entre 1555 et 1561, on a recensé 17 correspondants. Mais si Dacezat a encore une grande célébrité à Toulouse, c'est sans nul doute grâce à la construction de son fameux hôtel. L'hôtel Dacezat, que vous connaissez sûrement, est situé à peu de distance de la place Esquirol à Toulouse. C'est un hôtel particulier élevé entre 1555 et 1557 sur les plans de Nicolas Bachelier, le plus grand architecte toulousain de la Renaissance. Derrière un monumental portail en bois se cache une cour intérieure rénovée en 1993. Deux des côtés de la cour comportent une élévation à trois niveaux superposant les trois ordres classiques, ordre ionique, ordre dorique, ordre corinthien. Et il s'agit, avec la cour carrée du Louvre à Paris, d'une des premières manifestations du classicisme français. Cet hôtel est inachevé. Il aurait pu, il aurait même dû être deux fois plus grand si le projet initial avait pu être respecté. Mais les voisins de Pierre Dacezat ne cédèrent pas ses offres et ne voulurent pas vendre le terrain. Et le second corps de bâtiment prévu à droite de la cour, pour ces raisons, ne vit pas le jour. Pierre Dacezat profita peu de son magnifique hôtel. Il mourut ruiné en 1581, avant même que les travaux ne soient terminés. L'hôtel resta dans la famille jusqu'en 1761. Au XIXe siècle, il fut racheté par la banque Ozène, qui le légua à la ville afin qu'elle y accueille, comme c'est encore le cas aujourd'hui, les sociétés savantes. Par exemple, elle accueille en particulier le musée de la Fondation Benberg, riche de peintures et de dessins de très nombreux grands peintres. L'hôtel Dacezat héberge également l'Union des académies et des sciences savantes, l'Académie des Jeux floraux, fondée en 1323 par sept troubadours, la Société archéologique du Midi de la France, l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, fondée en 1640, qui est la sœur aînée de l'éminente Académie royale des sciences, née seulement en 1666. À Paris. La Société de médecine, de chirurgie et de pharmacie est également hébergée à l'hôtel Dacezat, ainsi que la Société de géographie. Je vous l'ai dit, Toulouse semble à cette époque être le pays de cocagne. Mais cela ne va pas durer. En cette année 1561, de lourds nuages s'approchent de cette bonne ville. De fait, vont venir bouleverser ce bel équilibre. Brusquement, tout s'effondre. La récolte de 1558 avait été excellente et celle de 1559 s'annonce aussi prometteuse. Est-ce que celle de 1560 sera-t-elle aussi excellente ? Mais catastrophe. En octobre 1560, intervient un krach à Londres et à Anvers, dû, semble-t-il, à des pratiques douteuses de certains marchands toulousains. Puis, la récolte de 1560 sera abondante, certes, mais de qualité médiocre. Quant à celle de 1561, gâchée par des pluies incessantes, elle sera encore plus médiocre. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive ? Le marché s'effondre. Le marché est saturé. De plus, certaines pratiques commerciales n'arrangent rien. Du pastel de mauvaise qualité mêlé à un peu de bon pastel est vendu au prix fort. Ailleurs, on va jusqu'à mouiller le pastel pour augmenter son poids. Et arrive le 17 mai 1562, jour très important pour Toulouse. C'est en même temps le jour de la Pentecôte. Et les protestants, las des persécutions dont ils sont victimes, sont sur le point, ils se révoltent, ils sont sur le point de prendre le Capitole. Mais finalement, ils seront délogés et 4000 d'entre eux seront massacrés. Seulement, il faut savoir que presque tout le milieu des marchands toulousains est protestant, donc il va être décimé. La situation religieuse s'ajoutant aux problèmes que rencontre la culture du pastel fait que les circuits sont perturbés et que l'inquiétude règne. De plus, le pastel est maintenant concurrencé par l'indigo. L'indigo est importé des Indes et il va plonger le midi toulousain dans le marasme et la culture du pastel va connaître son premier déclin. L'indigo est plus riche en colorants. Il offre les mêmes qualités que le pastel et de plus, il est d'extraction plus facile. Ceci peut expliquer en partie l'effondrement du marché du pastel. Il y a aussi, me semble-t-il, une autre raison. Le commerce a été pendant plusieurs années florissant, je vous l'ai dit. Certains marchands sont devenus extrêmement riches et ils se sont démotivés. Ils n'aspirent plus qu'à une chose, augmenter leur patrimoine foncier sans beaucoup se soucier des terres pastelières. Tous font construire de somptueux hôtels. Je vous l'ai dit, on en compte plus de 80. Ils achètent terre et domaine, et le fin du fin, pour eux, est d'acheter même une terre noble ou des droits seigneuriaux. Nombreux sont les marchands qui, grâce à leur fortune, deviennent capitouls, ce qui leur donne la noblesse héréditaire. Je vous l'ai dit, Bernuy en 1534, Jean Boisson 1515, 1519, 1537, il est donc réélu trois fois. Le Basque Jean Chevéry et devient capitoul en 1536. J'arrête tous, finalement, deviennent plus ou moins capitoul à leur tour, sans oublier bien sûr Pierre d'Assesa, qui sera fait capitoul en 1552 et 1561. Et mieux, ils obtiennent aussi la noblesse par mariage. Par exemple, on voit la réunion des familles Lancefoc, Chevéry et Assesa. Les marchands se transforment petit à petit en parlementaires, surtout ils sont conseillers. Et ainsi, deux générations plus tard, il n'y aura plus de marchands. Bien sûr, le pastel s'est effondré entre-temps, mais les marchands, on peut le dire, n'ont rien fait, non pas, non plus, pour diversifier leur activité. Le pastel a fait la fortune de quelques marchands, mais on doit le dire aussi, cela n'a pas enrichi les cultivateurs. Et on pourrait même dire le contraire. Les marchands, devenus seigneurs par l'achat de nombreuses terres, ont accru, au contraire, la dépendance des paysans vis-à-vis de Toulouse. L'âge d'or ne le fut pas pour tout le monde, et on peut même dire loin de là. La culture du pastel s'est doucement éteinte, mais elle s'est poursuivie encore quelque temps dans l'Albigeois. En 1669, on y recense encore 300 moulins à pastel, mais en 1701, ils ne sont plus que 60. Alors, que peut-on dire aujourd'hui ? Peut-on dire que tout est fini ? Absolument pas. Le pastel reste très vivant dans la mémoire de notre région. On le trouve encore à l'état sauvage le long de quelques fossés du Lauragais, mais mieux, il est cultivé aux portes de Toulouse. On en a planté sur un terrain de 5 hectares à la Bège, près du Gramont, près de l'immeuble Thalès et d'autres start-up, en fait à l'extrémité du parc d'activité du Sicoval. Le pastel produit à la Bège sert à la production de la teinture extraite des feuilles. On a même créé un parc qui a été créé par Sandrine Bannecy, présidente fondatrice de l'Académie des arts et des sciences du pastel, création en juin 2013. On a même créé le musée du pastel situé à Labège. Ce musée de 1500 mètres carrés, qui est porté en grande partie par Jacques Germain en association avec Sandrine Bannecy, est appelé Terre du pastel. Il emploie 26 salariés. Et c'est le grand centre de ressources du pastel. Ce lieu magique livre encore tous les secrets du pastel. Il intègre les évolutions actuelles du pastel. C'est un véritable endroit de découverte et de recherche consacré au pastel d'hier et d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'ensemble du dispositif a été élaboré avec un comité scientifique de l'École de chimie de Toulouse. Je citerai également la société Les Bleus du Pastel de Lectoure, qui développe depuis 1994 la remise en valeur du pastel au niveau culture, utilisation en industrie et élaboration de produits. Enfin, en 2014, un agriculteur dans la vallée de la Lèze a planté lui aussi du pastel dont la production entre dans la fabrication de cosmétiques. Nous arrivons au terme de cette première émission dans laquelle j'ai voulu avec vous aller marcher le long des champs de pastel. Notre région a beaucoup d'autres richesses et nous pourrons les découvrir ensemble au cours de prochaines émissions d'Estoria. Je vous souhaite, chers auditeurs, une bonne journée et je vous dis à très bientôt.